d'image de l'Église persécutée avec ce fameux verset conducteur que vous avez ici, hein, voilà, éprouvé par le feu. Alors c'est une question, et autrefois plus précieuse que l'or, hein, elle vient de 1 Pierre chapitre 1 au verset 9, et nous allons parcourir ce passage biblique. Mais avant, j'aimerais juste pouvoir introduire, en vous rappelant cet homme, l'apôtre Pierre, un homme qu'on connaît très bien dans les évangiles. Quand on lit les évangiles et qu'on voit l'apôtre Pierre, on a cet homme un peu cru, un peu bourru, assez authentique dans ses réactions, dans ses émotions. Et puis, peut-être un peu présomptueux, un peu prétentieux aussi. Souvenez-vous quand Jésus a dit par quelle mort il allait passer et que Pierre a dit, mais je t'accompagnerai Jésus jusque dans la mort. Et quand le lendemain, la mort était là, Pierre l'a renié trois fois. Ou cette fois, dans les évangiles aussi, où il a dit, en réalité, ça t'arrivera pas, je le permettrai pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, quand tu ne fais pas la volonté de mon Père. Cet homme qui a renié trois fois le Christ et qui va le voir connaître mort, puis va le voir ressuscité, va se retrouver avec Jésus. Et Jésus, trois fois, va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Paître, fais paître mes brebis, prends soin de mes brebis. Et la troisième fois, même Pierre en est triste parce que ça lui rappelle très probablement que trois fois, Pierre l'avait renié. Et puis, Jésus l'appelle. C'est de la réhabilitation, mais Jésus l'appelle, va paître mes brebis. Et puis, Jésus va donner une information importante que vous lisez ici. Nous allons le lire, hein. Jésus lui dit en vérité, donc Jésus s'adresse à Pierre. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Donc c'est Jésus, il dit cela pour indiquer par quelle mort révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. Ce que je trouve d'intéressant dans ce petit passage, c'est que juste après que Pierre reçoit ça, à part de Jésus, il lui dit, tu vas mourir à cause de mon nom. Tu seras vieux, il va se passer des choses, tu vas mourir. Donc tu vas connaître la souffrance à cause de moi. Alors Pierre se tourne vers le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean que vous avez dans ce tableau là de Jean Burnham, et il dit à Jésus, et lui aussi, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Et Jésus lui dit, si je veux que je qu'il soit encore vivant quand je revienne, que je revienne, il sera vivant. Toi, ça ne te concerne pas, qu'importe. Suis-moi une deuxième fois. Ce que je trouve de super important dans ce petit passage, c'est que déjà la persécution est annoncée à Pierre. Déjà, il sait qu'il va souffrir. Et cet appel, toi, suis-moi. Et puis, quand Pierre essaye un petit peu de dire, voilà, et l'apôtre t'occupe. Toi, suis-moi. C'est comme un peu si je t'appelle, je te réhabilite, ta vie est sauvée, ton âme est sauvée, tu as la vie éternelle, maintenant tu me suis et tu vas aller, tu vas obéir, tu vas faire ce que je te demande de faire, suis-moi, quel qu'en soit le prix. Pierre va effectivement connaître la mort selon la tradition chrétienne. Pierre va mourir à la tête crucifiée à l'envers, hein, va mourir crucifié à la tête à l'envers. Donc nous savons que Pierre va connaître une mort violente, comme d'ailleurs la grande majorité des apôtres. Pierre va écrire cette lettre de 1 Pierre, et il va l'écrire dans un contexte particulier. Pierre va écrire à des chrétiens d'Asie mineure, c'est-à-dire à la Turquie actuelle, pour les préparer, les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. Parce qu'au moment où Pierre écrit cette lettre, Néron est en train de cruellement, horriblement persécuter son Église. Et Pierre exhorte ces chrétiens d'Asie mineure, les encourage, comme pour leur dire, attention, vous êtes dans l'Empire romain, et ce qui touche Rome, ce qui touche les chrétiens de Rome, va vous toucher indéniablement. Déjà, ça, c'était déjà le cas. Mais là, ça va être encore pire. Il faut savoir que peut-être 2 ans, 3 ans après à la rédaction de cette lettre, Pierre va mourir. Donc on est déjà dans ce temps où Pierre est déjà avancé en âge. Et voilà que cette lettre va être écrite pour encourager ces chrétiens d'Asie mineure. C'est comme s'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un chrétien de Syrie ou d'Irak qui était confronté à l'État islamique et qui avait souffert, vous vous souvenez de l'État islamique en Irak, en Syrie, ces meurtres, ces horribles choses qui se sont passées, écrivait à un chrétien de Kaboul et lui dit « Tu es toi aussi persécuté. Pour l'instant, à Kaboul, tu vis une liberté relative. Tu peux te réunir. Il ne faut pas que tu dises que tu es chrétien. Tu te réunis en église de maison. C'est très secret. Même à Kaboul, avec les forces de la coalition. Mais ne te leurre pas. La persécution va arriver à Kaboul. Déjà, dans tout ton pays, c'est déjà le cas. Et quand et si les talibans récupèrent tout le pays, y compris Kaboul, tu vas vivre cette horrible persécution. C'est un contexte de relation qu'il y a entre quelqu'un qui voit la persécution et qui la vit et qui veut encourager ses frères et sœurs à la vivre. Nous allons lire ce premier chapitre puisqu'il sera l'élément central de notre prédication. Juste. Super. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Magnifique texte. Magnifique chapitre même qui continue un peu plus, mais je vais m'arrêter là. Chapitre de Pierre qui nous parle beaucoup d'espoir, qui quelque part aussi, autant ce chapitre que même tout l'épître, nous invite, nous rappelle notre responsabilité et notre devoir à vivre comme des étrangers au milieu des épreuves. Et en l'occurrence, là, pour ces chrétiens d'Asie mineure, au milieu de la persécution, vivre comme des disciples dans ce monde, comme étrangers au milieu de la persécution. Vous pouvez le voir plusieurs fois dans cette lettre, au chapitre 1, ce que nous venons de voir, mais également au chapitre 2, au chapitre 4. Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires. Et c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons développer. Mais avant tout, nous allons voir les raisons de l'épreuve. Pierre, dans ce que nous venons de lire, nous a rappelé quelle est la raison principale de la souffrance. Il rappelle à ses lecteurs pour quelles raisons nous souffrons, parce que nous aimons Dieu. Alors, il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Il s'agit ici des épreuves qui viennent ébranler notre foi et non les conséquences de nos mauvaises actions. Effectivement, si je tue quelqu'un et que je souffre à cause de cet acte-là, c'est un péché, bien évidemment, bien sûr, il y a une conséquence tout à fait logique. Mais quand nous sommes dans notre bon droit, quand nous n'avons rien fait de mal et que nous vivons la souffrance et l'épreuve, c'est une des raisons de l'épreuve, c'est que nous aimons Dieu. Chapitre 4, verset 16 que vous avez derrière, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » La raison de notre souffrance, de nos épreuves, c'est que nous portons Dieu dans notre cœur, nous portons Jésus dans notre cœur. Et alors, c'est très intéressant ce que nous venons de lire parce que, au lieu de parler de l'épreuve, la première chose que dit Pierre, il dit « Béni soit Dieu ». Hein, je le relis hein, dans ce passage-là. Hein. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, etc., etc. Béni soit Dieu. Alors c'est marrant parce que dès le début de cette lettre, Pierre nous invite à regarder à celui qui est digne de louange, nous invite à nous rappeler. En effet, il va nous dire, il nous rappelle notre position bénie devant Dieu, il nous dit, vous avez été régénérés parce qu'il vous a donné une vie nouvelle, une espérance vivante, une vie nouvelle d'abord, une espérance vivante. Et puis, ce texte nous apprend qu'en Jésus-Christ, il y a des biens qui nous sont réservés dans le ciel, des biens qui ne peuvent pas disparaître, qui ne peuvent pas être salis, qui ne peuvent pas perdre leur éclat. Et Pierre passe une première partie de cette épître à nous dire, vous êtes chrétien en Jésus-Christ, vous avez le salut de vos âmes, vous êtes heureux parce que vous allez vivre éternellement et des biens vous sont réservés. Ayez cette espérance en vous, soyez heureux. Dans cette introduction de Pierre, et ce béni soit Dieu, cette louange, ce rappel de notre position bénie devant Dieu, est nécessaire avant de parler de l'épreuve. Je ne peux pas accepter l'épreuve dans ma vie si je ne me rappelle pas en qui je suis, quel est mon rocher, on en a parlé juste avant, l'introduction de Marianne, on l'a chanté, et si je ne me rappelle pas en qui je suis. Il est bon de se rappeler pourquoi. Et pour qui nous sommes prêts à souffrir? Parce que oui, dans la croix, c'est comme s'il y avait les deux faces de la croix. J'accepte le salut en Jésus-Christ. Je prends ce salut, cette grâce imméritée. Mais est-ce que je prends également la face, est-ce que je prends également le fait de le suivre, quoi qu'il en coûte? Et ça, c'est très important. On ne peut pas prendre la grâce de Jésus sans prendre cette vie d'obéissance. Et parfois, cette vie d'obéissance peut parfois mener à la souffrance. La question est importante. C'est une question qu'on peut se poser, que je me pose tout le temps. Ma confiance à Dieu a-t-elle des limites? Est-ce qu'au final, je dis, je crois en Jésus, tu es mon rocher, je le chante, mais est-ce qu'au moment de l'épreuve, de la difficile épreuve, ma foi reste intacte, ma confiance reste intacte. Alors, ça peut être normal d'être ébranlé dans un premier temps, d'avoir des moments de doute, des moments d'absence. Je ne le dis pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, je reprends le chemin du salut? Est-ce qu'à un moment donné, je reprends le chemin de Jésus? Est-ce que, où en est ma foi? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? Parce qu'effectivement, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça commence à être difficile, c'est là que ma foi, elle est mise à l'épreuve. Et la question est de savoir quelle est ma valeur, la valeur de ma foi. Pourtant, Pierre nous dit au verset 6 cette phrase, juste après. C'est là ce qui fait votre joie, le salut, la vie nouvelle, l'espérance vivante, les biens qui vous est réservé aux cieux. C'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, le verbe falloir en grec, dei, qui signifie une nécessité issue d'une volonté divine. Ce n'est pas ni le diable dans ce texte-là, c'est Dieu qui nous fait passer par l'épreuve, nous dit Pierre. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y a une dichotomie dans cette phrase. C'est là ce qui fait votre joie. Mais diverses épreuves, vous allez être attristés. Vous êtes joyeux en Jésus-Christ, mais vous allez être attristés. Pierre parle des épreuves du présent, maintenant. Pour les chrétiens d'Asie mineure, il leur disait, maintenant, vous allez vivre l'épreuve. Il explique que c'est une nécessité d'y traverser parce qu'il le faut, hein. Donc je vais expliquer le verbe dei, suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. Pierre dit effectivement que l'épreuve, ces temps durs, peuvent apporter des tristesses. Mais il dit pour un peu de temps. Parce que c'est un temps qui est limité par Dieu. C'est Dieu qui décide de la durée de nos épreuves. Il décide aussi de l'intensité de nos épreuves. Il a promis que nous ne serions pas tentés au-delà, hein, de nos limites, bien entendu. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Être accablé de toutes sortes d'épreuves. De Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors ne soyons pas étonnés au travers de ce verset, de connaître les temps de tempête dans notre vie. C'est peut-être pas la persécution. Ça sera peut-être jamais la persécution. Je n'en sais rien. Je ne viens pas annoncer de mauvaises choses. Mais je pense que vous avez tous un vécu et vous avez tous vécu des temps de souffrance. Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. Et c'est même tout le contraire. Mais j'aime cette phrase. Ce qui fait ma joie, c'est mon salut. Mais à un moment donné, il y a un temps. Parce que c'est une nécessité par Dieu. Alors la question, c'est de se dire, Pierre aurait pu en rester là et se dire, ok, très bien, je vais vivre ce temps, je vais aller dans ce temps-là. Maintenant, Seigneur, j'aimerais comprendre pourquoi je le vis. Et ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi me faut-il passer par l'épreuve? On l'a au verset suivant. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Et là, il y a une vraie explication de pourquoi nous vivons de manière voulue de Dieu des temps d'épreuve dans notre vie. Dans l'Antiquité, quand on récupérait de l'or brut, on extrait de la roche, cet or était rempli d'impuretés, était rempli de roches, parfois un peu fossilisées. Il fallait passer cet or, il fallait purifier cet or, et comment on faisait? On utilisait une méthode dans l'Antiquité qui s'appelait la méthode de la coupellation. On prenait un creuset poreux, en Antiquité souvent c'était de l'os, un creuset poreux, on mettait l'or dedans, en brut, et on faisait chauffer cet or dans ce creuset. L'or fondait, les premières impuretés ressortaient et étaient capté par le creuset poreux qui absorbait. L'épreuve du feu faisait que les impuretés allaient border le creuset poreux. Et parfois, toutes les impuretés ne partaient pas. Il fallait même rajouter un petit morceau de plomb dans le creuset au milieu de l'or pour qu'une réaction chimique ou physique, je ne sais pas, se produise et qu'on ait des flammes autour de l'or parce que les impuretés à la chaleur remontaient à la surface. Et cette réaction-là brûlait les impuretés et le reste était encore absorbé par le creuset poreux. C'est une image qui nous est aussi donnée là. Notre foi seule, si elle n'est pas testée, si elle n'est pas mise à l'épreuve, elle n'a pas de valeur. Notre foi, notre confiance en Dieu, quand elle est mise à l'épreuve, elle a de la valeur et ce texte nous dit qu'elle a plus de valeur que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. C'est une image. Pierre nous dit, excusez-moi, pour un peu de temps, vous allez y passer, mais moi derrière, je veux vous purifier. Et ce feu que vous vivez dans votre vie va purifier votre foi. Si aujourd'hui, ma foi, une moindre contrariété peut-être touche ma foi, ma confiance, et peut-être j'ai envie de dire, mais Seigneur, je comprends pas, je suis fatigué. Mais peut-être que cette épreuve-là, plus celle qui va suivre derrière, etc., va construire ma foi, et je vais construire ma confiance en Dieu, épreuve après épreuve. Regardez avec Job. Cette épreuve a été voulue de Dieu, Job qui a tout perdu. Or, Satan est allé, l'adversaire est allé dire, il ne te bénit, il ne te loue que parce que tu lui donnes des choses. Il dit, très, très bien, vas-y, touche à toute sa vie, enfin, touche à ses biens, d'accord, même à sa famille, ne prends pas sa vie. Voilà. Et Job va vivre des temps horribles, et même un temps de doute avec ses amis qui vont le faire douter. Mais voici ce qu'il dit. Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Un test de notre foi. Alors, j'aime bien dans cette image de cet or au creuset, comme vous avez en bas, hein, où on chauffe l'or et ma foi, elle est testée. Quelle est la valeur de ma foi? Quelle est la valeur de mon engagement en Jésus-Christ? Mais vous savez, il y a deux choses que le Seigneur veut faire au travers de ça. Et encore une fois, c'est une image. Il veut enlever toutes les impuretés, toutes les choses qui m'empêcheraient de vivre pleinement et librement ma vie. Il veut me dire, ne crains pas dans ces circonstances-là, aie confiance en moi et la paix. Et il n'y a rien de pire qu'une foi qui est entravée par la peur, parfois par l'amertume, peut-être par le péché, peut-être par le manque de pardon, peut-être par des choses qui perturbent notre paix et nous empêchent de vivre librement et pleinement en Jésus-Christ. Puis une autre chose, vous l'avez en haut dans cette image, ce tore qui est chauffé, qui devient du coup malléable et que l'on va insérer dans un moule pour lui faire prendre la forme que l'on veut. C'est comme ça qu'on fait des bijoux d'ailleurs. On le met dans un moule. Comme si le Seigneur nous dit, au travers des épreuves, parce que c'est le moment, parce que je le veux pour un peu de temps, je maîtrise tout de cette épreuve, je vais non seulement purifier ta foi de tout ce qui t'empêche de vivre librement, pleinement ta vie, en paix avec moi, mais en plus de ça, je vais te forger, je vais te faire à mon image. Tu vas être un chrétien qui va évoluer de plus en plus à mon image. Moi, on me disait quand j'étais jeune, tu changes du tout au tout, puis non, mais c'est faux. C'est un parcours, c'est une progression dans la vie et les difficultés, les souffrances, quand elles sont relevées avec notre rocher qui est Jésus, nous transforment peu à peu à son image. Et c'est comme si Dieu nous chauffe, nous fait prendre le moule du lingot, puis ensuite, il nous reprendra cet or, il va être encore purifié à nouveau, puis nous prendra une forme plus petite d'un lingot, peut-être plus petite d'une plaque, puis ensuite il nous rechauffera et nous finirons dans un moule définitif qui sera un beau bijou à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tel que Jésus veut que nous ressemblions. Mais on ne peut pas ressembler à Dieu si notre foi n'est pas mise à l'épreuve. Et c'est ce que ce passage veut dire. Et c'est ce que Pierre veut dire. Oui, nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous avons accepté ce salut. Oui, mais il y a des temps qui vont arriver. C'est voulu de Dieu. Et c'est pour nous épurer de tout sentiment. Et c'est pour nous faire à son image. J'ai eu l'occasion, il y a 4 semaines de ça, presque un mois, de passer une semaine avec cet homme qui s'appelle Manga. Il est nigérian. Au Nigeria, 7e position dans l'index. 4500 personnes sont décédées l'année dernière en raison de leur foi, rien que dans ce pays-là. Dans ce pays-là, 75% des frères et sœurs assassinés l'ont été au Nigeria, dans son pays. Lui, il est natif de l'état de Borno, nord-est complètement. C'est l'état qui a vu naître le groupe terroriste Boko Haram. Un jour, Boko Haram, en 2012, il avait 20 ans, encercle sa maison, ils sont 30 hommes, suréquipés. Ils mettent des liens sur les mains, donc ils attachent les mains de son père, Manga, de son petit frère ainsi que lui. Ils les mettent dehors et leur disent « Voilà, vous êtes les hommes de la maison, vous allez renier votre Jésus-Christ et vous allez vous engager à l'islam. » Et Manga a dit « Il est hors de question qu'on renie Jésus-Christ et qu'on s'engage en islam. » Le père de Manga sera sauvagement assassiné devant ses yeux. Je ne veux pas vous expliquer comment. C'est un petit peu horrible. Et le petit frère va être aussi attaqué. Et il en finira qu'il aura même une cicatrice autour du cou. Et Manga, lui aussi, sera attaqué et laissé pour mort. Le sang coulant et les terroristes se disant « Le sang, plus il va couler, plus ils vont finir par mourir. » Il faut attendre 3 heures avant que les services de sécurité arrivent sur les lieux. Le père de Manga est décédé. Il reste les 2 enfants, Elijah et Manga. Tous deux baignent dans le sang. Allez, on va les prendre à l'hôpital. Arrive à l'hôpital, les médecins disent, on va pouvoir en soigner qu'un seul des deux. Nous n'avons pas assez de sang. Alors, on va prendre Elijah. C'est lui qui a le moins de traces autour de son cou. C'est lui qui a le moins saigné. Manga, lui, il est foutu. Regardez son sang, regardez l'état de son cou. Alors, ils vont s'occuper d'Elijah. Mais la mère de Manga va supplier les autres médecins, disent, essayez de faire quelque chose. Même si c'est foutu, essayez de faire quelque chose. Alors, ils vont le prendre, ils vont lui mettre des patches électrocardiogrammes, etc. Ils vont essayer de récolter du sang pour mettre un peu plus de sang pour essayer de le réanimer. Et puis, malheureusement, l'électrocardiogramme à plat. Et ce, déjà depuis pas mal de minutes. Et c'est fini. On va voir la mère de Manga, on lui dit « Votre fils Manga est décédé. » Alors, ils vont revenir dans la salle, se débarrasser. On ne sait pas pourquoi, mais quelqu'un va réallumer parce qu'il voit le corps de Manga bouger. En fait, ils voient le ventre, ils vont réallumer. Électrocardiogramme. Et moi, j'avais ce miracle vivant pendant une semaine avec moi, qui a vécu une épreuve terrible. Il a perdu son papa. Il a une énorme cicatrice autour du cou. Et il était ressuscité parce que Dieu ne voulait pas qu'il le prenne. 5 ans après, toutes ses tantes, ses oncles ainsi que sa mère vont être kidnappés par Boko Haram. Ils vont assassiner les hommes de la famille et vont torturer pendant 8 mois les tantes et la maman de Manga. Encore une épreuve de plus. Dans un temps où Manga est traumatisé, lui et sa famille. 8 mois après, elle sera libérée. Et j'ai mis mon frère en Christ. Nous avons été à la gare. Je devais le déposer à la gare. Et il m'apprenait que l'État, Boko Haram avait écrit une lettre à sa maman avec l'entête en disant: Bonjour maman, nous savons que ton fils aîné est encore vivant. Ne t'inquiète pas, la prochaine fois qu'on va l'attraper, on le loupera pas. Et j'ai ce frère qui, le lundi, 2 jours après, est reparti dans son pays, alors il est condamné à mort par Boko Haram. Mais j'avais avec moi ce frère qui était d'une douceur incroyable, restauré par le Seigneur, qui n'avait peur de rien, ni des petites circonstances, qui n'avait pas peur de retourner dans son pays alors que j'avais fait visiter la France et tout ce qu'il y avait de bien en France. Et qui disait: Je me réjouis de retourner à mon pays. Ma mission est là-bas. C'est vrai que je préférerais être en France, mais ma mission est là-bas. Il avait une foi extraordinaire. Un homme qui aimait Dieu, se levait à 5 heures du matin, il lisait sa Bible. C'était extraordinaire. Donc, le miracle est possible. La restauration est possible. Voilà un homme qui est passé à de très nombreuses reprises par l'épreuve du feu. Et malheureusement, je crains qu'il vaille encore passer des temps dans l'épreuve du feu. Mais je peux vous garantir que sa foi, sa confiance en Jésus, elle a été construite. Il en est devenu inébranlable. Et puis, ce verset se termine en disant, voilà, excusez-moi, excusez, je me suis juste perdu, voilà. La valeur éprouvée de votre foi, hein, aura pour résultat la louange. Voilà, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est pas la gloire, la louange et l'honneur maintenant sur le monde terrestre, mais quand nous regardons nos yeux fixés vers l'espérance qui est Jésus-Christ, même dans nos temps d'épreuve, ça fait partie de ces biens qui nous est réservé dans le ciel, celle d'avoir la louange, la gloire et l'honneur, car nous seront avec Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, et encore vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. En conclusion, rappelons-nous notre position bénie devant Dieu. Rappelons-nous de ce qui anime notre foi, de ce qu'il a fait naître. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons pris la Sainte-Seine tout à l'heure et nous nous sommes joyeux et heureux d'avoir Jésus dans notre vie. Mais ne soyons pas surpris. Parfois, il nous faut passer par la souffrance et l'épreuve. Parce que c'est une édification, le Seigneur veut nous épurer, améliorer notre confiance en lui. Il veut nous édifier et nous faire à son image en regardant l'espérance qui nous est réservé au ciel. Parce que comme disait l'apôtre Paul dans Romains 8, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que nous vivons ici et la gloire céleste à venir. Je pourrais souffrir toute ma vie pour Christ, mais ce qui m'attend au ciel est incommensurable. Je ne peux l'estimer. Et ça, chers frères et sœurs, c'est ce qui doit en permanence nous animer dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie pour votre écoute et puis peut-être que je pourrais prier. Prier pour que le Seigneur agisse dans notre vie comme il agit dans la vie de nos frères et sœurs qui sont persécutés et que nous puissions aussi prier pour eux dans leur temps difficile afin qu'eux aussi, soumis à l'épreuve, leur foi s'améliore d'épreuve en épreuve, que leur foi augmente en confiance. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Te rendons gloire, Seigneur, pour ton ton salut. Nous t'aimons non pas pour ce que tu nous as donné, mais pour qui tu es, Dieu de gloire et d'éternité. Mais nous te remercions, Seigneur, d'avoir voulu porter ce poids à la croix, d'avoir voulu prendre nos péchés à la croix. Et nous regardons que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Et nous voulons animer notre foi de cela, Seigneur Jésus. Rappeler chaque jour sans cesse ce que tu fais, ce que tu as fait à nos frères et sœurs. Mais nous voulons te prier, Seigneur, que dans les temps difficiles, les temps que l'ennemi nous accable, permis par toi, nous puissions non pas te renier, non pas te rejeter ou se détourner de toi, mais que nous puissions grandir dans la foi, une foi épurée, malléable, que tu nous fasses à ton image, Seigneur, afin que nous puissions, pas après pas, épreuve après épreuve, te ressembler et te témoigner dans le monde qui nous entoure. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui vivent ces temps-là, Manga, Rebecca, cette personne qui parle en Afghanistan, que ces temps difficiles, ce soit ce temps où on se rapproche de toi. Je me souviens de cette sœur, Seigneur, qui disait que nous pouvions penser que les frères et sœurs persécutés vivaient une vie signe d'une vie maudite. Mais elle disait, pour nous, c'est un raccourci vers le Père. Alors merci, Seigneur. Merci de nous interpeller dans ces moments difficiles et de nous faire tenir ferme dans la foi, malgré les circonstances. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, nous te louons, parce qu'à toi seul appartient la gloire pour l'éternité. À toi seul appartient l'honneur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bienveillance envers nous et pour ces moments où tu interviens dans notre vie. Amen.